Les par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du 8 décembre 2016 et les titres aujourd'hui. Aide financière pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, plus de la moitié des familles laissées pour compte. Santé mentale, les proches dénoncent le manque de ressources. Proches aidants, 4 projets de la région cités en exemple. Le centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie embraye en deuxième vitesse avec de nouveaux moyens financiers. Et puis la maison de la famille Beauce et Chemin officialise un partenariat avec les éditions Midi 30. En Acadie, un nouveau défenseur des enfants et de la jeunesse et des aînés. Et puis, Monsieur Trump, qu'allez-vous faire pour les personnes handicapées? Il y aura aussi 2 entrevues aujourd'hui. On commencera avec ici Madame Josette Roy, présidente du conseil d'administration depuis 4 ans du centre de réhabilitation AVC situé à La Prairie, et Nathalie Chartrand, directrice de l'Association sportive des aveugles du Québec. Alors, plus de la moitié des familles laissées pour compte, peut-on lire dans l'Hebdo journal. Le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle mesure pour soutenir financièrement les familles d'enfants lourdement handicapés. Cependant, les parents dénonçaient aujourd'hui le manque d'accessibilité au programme supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Malgré que les regroupements d'organismes de personnes handicapées du Centre du Québec et de la Mauricie soulignent l'excellente initiative qui représente ce programme, il mentionne que les critères principalement établis par des médecins et spécialistes du ministère de la Santé et des Services sociaux et de retraite Québec sont beaucoup trop sévères. À ces critères s'ajoute, selon eux, une bureaucratie excessivement lourde et une interprétation des documents très subjective. Le nouveau programme fait profiter 900 familles alors que 2700 demandes ont été enregistrées. Selon les statistiques de la mi-novembre, les régions de la Mauricie et du centre du Québec comptent plus de 1400 familles avec au moins un enfant handicapé. Nous demandons au ministre Barrette de revoir sa mesure de façon plus inclusive, ceci afin de permettre aux familles de demeurer ce qu'on appelle des familles, lance Lynn Sergerie, directrice de l'Association des parents d'enfants handicapés. Le fait de ne pas rencontrer un des seuls critères sur les 7 imposés pour avoir droit à l'aide financière résulte d'un rejet de la demande. Et parmi ces critères, être apte à avoir un contact visuel ou faire bye-bye de la main est considéré comme de la communication et l'enfant ne sera pas jugé comme lourdement handicapé. Santé mentale à l'émission de Catherine Perrin sur les ondes de Radio-Canada. Pierre Magloire, le frère d'Alain Magloire, abattu par la police lors d'une crise en 2014. Monsieur Robert, qui est un proche aidant, et Carole Brabant, administratrice de la Fondation Pinel et elle-même mère d'un enfant atteint de schizophrénie, explique à Catherine Perrin que le système de santé ne fait rien pour empêcher la judiciarisation des patients. Pardon. Lorsqu'on est confronté à un problème de violence à la maison, on nous suggère d'appeler la police, qui arrive avec les phares giratoires, raconte Madame Brabant. Le jeune, qui est déjà un peu suspicieux, va souvent se sauver. Je le sais, c'est arrivé dans mon cas. Il n'y a pas de ressources pour dire aux familles comment agir et à qui se référer. Il m'est arrivé à quelques reprises d'aller dans un hôpital avec mon fils qui était très malade et de me faire dire « Tu es pas dans un hôpital de ton secteur ». On a déjà attendu 4 heures. On a eu de la difficulté à le garder à l'urgence, à le convaincre de rester. Et là, il faut recommencer dans un autre hôpital. Ça m'a déjà pris quasiment 6 mois avant de le convaincre de retourner à l'hôpital. Et puis les dangers de l'automédication. Il y a parfois des gens qui, à partir d'un certain temps, finissent par se sentir mieux. Alors ils se disent tout à coup, pourquoi je continuerai à prendre un médicament qui m'occasionne toutes sortes de troubles, dont la somnolence par exemple. Et c'est ce que souligne M. Pierre Magloire. La toxicomanie n'aide pas, dit-il. Souvent, on va s'automédicamenter, on va essayer de se calmer en consommant, ce qui la plupart du temps empire la situation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question qu'il pose. Les attacher à un lit et leur faire prendre un médicament de force? Non, ce sont des adultes. Alors, je devrais être maintenant en communication avec José Troyes, qui est président du conseil d'administration depuis 4 ans du centre de réhabilitation AVC, situé à La Prairie, sur la rive sud de Montréal. Bonjour, Madame Roy.
Bonjour, Madame.
Alors donc, ça fait 4 ans maintenant que ce pavillon-là, comment vous l'appelez, ce centre de réhabilitation-là, est ouvert?
Non, ça fait 4 ans que moi je suis présidente, mais il a ouvert en 1992.
Oh mon Dieu, que je suis en retard!
Il a changé de nom à différents moments, mais c'est toujours resté un centre qui reçoit les personnes qui ont subi un AVC.
Alors, on aide ces gens-là dans leur réhabilitation physique, mental, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on offre comme service dans ce centre?
Bon, alors, ce centre, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes survivantes après un accident vasculaire cérébral, ainsi qu'aux membres de leur famille. Après avoir bénéficié des services offerts par le réseau de la santé, la personne atteinte d'un AVC se retrouve souvent seule à elle-même et doit relever le défi de continuer à vivre et de fonctionner en société. Donc, notre centre intervient pour redonner espoir, soutien et accompagnement à ses membres et à leurs proches aidants.
Mais c'est pas juste pour les gens de la rive sud, vous êtes ouvert, hein?
Non, actuellement, on accueille toute personne qui a fait un AVC et qui peut se déplacer pour se rendre au centre.
Et vous pouvez accueillir combien de personnes à la fois, Madame Roy?
Actuellement, nous avons 18 membres accidentés, plus les aidants naturels. Alors, actuellement, on a 32 membres. Maintenant, bien sûr qu'on peut accepter dépendamment, là, du nombre de gens qui se présentent, mais de toute façon, c'est une clientèle qui bouge aussi. Hein?
Oui, bien sûr.
Il y a des gens qui se détériorent physiquement, qui doivent aller dans des services, et à ce moment-là, il arrive d'autres personnes.
Bien sûr.
Ce n'est pas un gros centre.
Non, je comprends ce que vous voulez dire.
Ça répond à un besoin vraiment
essentiel, hein, parce que est-ce qu'il y en a beaucoup, savez-vous, des centres comme ça, vraiment spécialisés?
C'est-à-dire qu'il y en a du côté anglophone à Montréal, mais il y en avait plusieurs au niveau de la province, mais pour des raisons administratives et aussi par manque de bénévoles, ces centres-là ont fermé un à un.
Ah, oh, mon Dieu!
Nous sommes actuellement le seul, à part ce qui existe à Montréal, du côté anglophone, et pourtant, on sait qu'à chaque année, il y a des milliers de personnes.
Est-ce qu'on connaît le chiffre, Madame Roy?
C'est parce que ce ne sont pas des statistiques récentes, mais au Canada, au moins 50 000 par année de gens qui font des AVC. Et là-dessus, 30 000 qui survivent.
Oh là là.
Oui.
Alors, ça a été créé comment, ce centre-là?
De La Prairie, ou bien celui qui a pris naissance d'où nous originons? Lequel vous voulez savoir?
Ah, moi, je parle de celui de La Prairie, surtout,
La Prairie,
oui, c'est ça.
C'est une dame de La Prairie qui a fait un accident vasculaire cérébral en 90, je crois, et elle fréquentait un centre de Laval qui existait à ce moment-là. Et ses amis de La Prairie ont dit, on va créer un centre ici. Donc, ils ont suivi une formation. Et depuis ce temps, ça fait 25 ans, en 2017, notre centre existe sous différentes appellations, mais actuellement, c'est le centre de réhabilitation AVC.
Alors, il y a bien évidemment beaucoup d'activités qui sont prévues, il y a beaucoup de services qui sont offerts, évidemment, à vos membres.
Oui.
Mais il y a quelque chose, le mercredi après-midi, je pense que vous avez une activité un peu spéciale.
Normalement, à toutes les semaines.
D'accord.
C'est sûr qu'il y a parfois des congés, là, mais c'est très rare, c'est en rapport avec les fêtes et tout ça.
Oui.
C'est de 9h, les gens arrivent vers 9h15 le matin et ça se poursuit jusqu'à 15h30 l'après-midi.
Oui, alors qu'est-ce qu'on fait?
Ce qu'on fait, c'est d'essayer avec un groupe de bénévoles, de redonner de l'autonomie ou ou tout au moins de conserver les acquis physiques, aussi sur le plan socioculturel, des activités créatives, des okay. activités cognitives aussi,
okay.
et des conférences, et aussi des cours, des ateliers, on en a eu sur la peinture,
ah, oui.
Du développement ouais. personnel, des notions sur la sécurité, l'aide aux personnes handicapées, il y a eu de la musicothérapie, du yoga du rire, de l'improvisation, des échanges avec des étudiants du milieu ou de l'extérieur. On reçoit aussi des jeunes qui veulent poursuivre des études en service social, ils viennent faire des stages chez nous.
Oui.
Maintenant, on offre aussi des activités plutôt socioculturelles comme les quilles, le vignoble, oui. le verger, la cabane à sucre, des visites de musées, on organise un repas de fête pour les gens, on fête l'Halloween, on peut les amener au cinéma, faire des pique-niques pendant plusieurs années, on est allé en séjour à Saint-Donat, à l'Étoile du Nord, qui accueille les personnes du troisième âge.
Eh bien, écoutez, tout ça est vraiment fantastique, Madame Roy. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ce que vous faites, vous et les bénévoles, hein, encore une fois. Vous savez que nous, chez nous, les bénévoles aussi, hein, il y en a beaucoup ici qui travaillent chez Vues et Voix, évidemment. Alors, bravo à eux aussi hein, d'être aussi proches de ces personnes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soutien psychologique, psychologique aussi.
Tout à fait.
Alors, merci beaucoup, Madame Roy. On va je m'excuse, hein, je cherche mes mots. Voilà, le centre de réhabilitation AVC oui. Situé à la Prairie. On va indiquer toutes les informations sur notre site internet, madame, et ça va nous faire plaisir.
C'est bien parfait. Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame Roy. Bonne fin de journée.
Merci.
Quatre initiatives régionales ont été sélectionnées pour composer un recueil baptisé 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants d'aînés à travers le Québec. Il s'agit des projets Parkinson Exercice Participation, le PEP, du Centre d'action bénévole du Granit, un phare pour les aidants déployé dans la MRC de Coaticook et promu par la Société Alzheimer de l'Estrie, Répit et Stimuli de la Société Alzheimer de Granby, ainsi que la campagne de sensibilisation pour prévenir l'épuisement des proches aidants d'aînés entreprises dans la région de Drummondville. Alors, c'est un recueil qui a été lancé à Québec par la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants, visant à présenter des initiatives faciles à reproduire. Nouveaux moyens, nouvelle équipe et nouveaux locaux pour la pédiatrie sociale. Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, autrement dit le CPSHG, embraye en deuxième vitesse avec de nouveaux moyens financiers qui amènera une équipe d'intervention plus stable et complète. Avec l'entente conclue entre le ministre de l'Éducation et la fondation du docteur Julien, fondateur de la pédiatrie sociale, chaque centre bénéficie d'un financement récurrent pour les trois prochaines années, ce qui inclut le point de service de CAPTCHA. Avec ces nouvelles sommes, nous avons pu embaucher une travailleuse sociale à temps plein, ainsi qu'un coordonnateur, explique le docteur Guillaume Hardy, qui remplace René Lavigueur à la tête de la direction clinique du CPSHG. Par ailleurs, les activités du centre de pédiatrie déménageront leur pénat au 54 rue Notre-Dame à CAPTCHA, dans le même bâtiment que la Caisse populaire Desjardins. La clientèle qui peut bénéficier des services du centre de pédiatrie est très large, comme l'explique le docteur Hardy, un jeune en situation de vulnérabilité. Il peut donc être âgé de 0 à 18 ans et vivre différentes problématiques. Ça peut être le divorce de ses parents, un événement stressant ou même une déficience intellectuelle. L'importance d'avoir un médecin dans l'équipe est de pouvoir déceler s'il y a des problématiques physiques ou autres qui viennent affecter davantage le jeune patient. Alors, une guignolée aura également lieu dans les rues de CAPTCHA et Sainte-Anne-des-Monts le samedi 17 décembre prochain en compagnie d'une vingtaine de bénévoles. Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie accepte toutes les demandes de consultation et organise une première rencontre en compagnie du patient et des intervenants à l'intérieur de 2 semaines. Alors, pour rejoindre le CPSHG, c'est un acronyme qui est un petit peu difficile à retenir. Et le pire, c'est que dans le courriel, il faut l'écrire 2 fois. Alors, il faut écrire au cpshg@cpshg.ca. Voilà. Nathalie Chartrand est directrice de l'Association sportive des aveugles du Québec, autrement dit la SAC. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bien oui, vous-même.
Oui, très bien. Alors, on va encore permettre à des personnes malvoyantes ou non-voyantes de bouger cet hiver.
Oui.
Grâce à vos activités. Alors, quel type d'activité allez-vous proposer?
Pour que les gens d'ici bougent, il va y avoir une autre session de tennis sonore.
Ensuite, de tennis, excusez-moi? Sonore, oui, excusez-moi, il y a un mot qui m'avait échappé, pardon.
Oui, tennis sonore. Il va y avoir le sissy foot,
oui.
Le soccer. Puis, pour les jeunes de 6 à 14 ans, ça va être la session d'hiver du programme du sport pour moi.
OK. Et ça se passe où? Ça se donne où, toutes ces formations-là?
Le tennis sonore, c'est au gymnase du Centre Sud, qui est au métro Berry-UQAM. Il faut marcher un petit peu. Ensuite, le soccer, ça sera à l'école Joseph Charbonneau, qui est au métro Jarry.
Mm-hmm.
Et le programme du sport pour moi, ben ça dépend. Parce que quand ça va être le ski de fond, ça va être probablement au bois de l'Iès, qui est complètement dans l'ouest de la ville, ainsi que la raquette, le patin, probablement dans le port.
C'est
de
ça,
Montréal.
Parce que.
Dépendamment, le judo, ça va être probablement au cégep Maisonneuve.
Mm-hmm.
Dépendamment des activités qu'on fait, on se promène un peu partout à Montréal. Là.
Bon, expliquez-nous peut-être pour les personnes qui nous écouteraient. Par exemple, quand on parle de tennis sonore, évidemment, on parle d'une balle qui fait du bruit, forcément.
Oui. Oui.
Et donc, mais j'imagine que le terrain est beaucoup plus petit.
Oui, en fait, c'est comme le mini-tennis.
Oui.
Ça se joue sur un terrain aux dimensions d'un terrain de badminton.
Oui.
Et la particularité, c'est comme pour les personnes qui ne voient pas du tout,
mm-hmm.
on a le droit à 3 rebonds de la balle avant de la frapper.
OK, d'accord.
Fait, comme ça, ça indique juste un rebond.
C'est fantastique.
C'est pas assez, là. Parce
ça peut aller
vers nous, à gauche, à droite, un petit peu. Fait, en ayant 3 bonds, bien là, ça nous donne vraiment la
bonne direction. Et évidemment, si c'est en public, il faut que le public soit silencieux.
Bien, en général, les sports pour personnes aveugles, avec des grelots, que ce
soit
au soccer, que ce soit au goalball, que ce soit au tennis sonore, malheureusement, c'est toujours silence. Mm-hmm. De toute manière, là, au tennis, là, même les voyants, là,
c'est
quand Coupe Rogers, là,
vous avez raison. Vous avez raison, parce qu'alors, dites donc, s'il y en a un qui fait un bruit, tout de suite, joueur,
ouais.
c'est...
Mais
oui, vous avez absolument raison de me le faire remarquer.
mais nous, c'est pas parce que on... En tout cas, je le dirais pas, là, mais nous, c'est vraiment parce qu'on veut la frapper, la balle, fait qu'il faut l'entendre.
Bien sûr, bien sûr,
exactement.
Bien sûr.
Puis, j'aimerais beaucoup aussi vous parler de la 17e édition du tournoi Invitation de goalball. Parce que ça, c'est un des plus gros tournois de goalball en Amérique du Nord qu'on organise à chaque année.
Mm-hmm.
On attend 16 équipes.
Mais j'ai vu ça. Puis attendez, il y a des gens qui viennent d'aussi loin que l'Australie.
Oui. Ils ne viennent pas à chaque année, par contre.
Ah, wow.
Oui, on a 6 équipes féminines qui sont inscrites, dont une de l'Australie, 2 américaines et le reste, ça va être des Canadiennes.
OK, d'accord.
Et puis les 10 autres, c'est des hommes. Là, par contre, ça vient principalement des États-Unis. Quoique, j'en ai quand même 2 équipes de la Californie.
Ah oui?
Ouais.
En effet.
Puis du Canada, New Jersey, New York...
Oh là là, Ligue 13. Donc, ici, au Québec, c'est quand même assez populaire. Donc, si je comprends bien, il y a quand même beaucoup d'équipes de goalball.
Au Québec?
Oui.
Qui jouent au Québec. Il y en a beaucoup récréatives, mais compétitives, non. On a que l'équipe du Québec.
OK, d'accord.
Mais on veut que les gens en entendent souvent parler du goalball, mais... Ils viennent pas.
Mais non, c'est ça.
Quoi.
Bon, racontez-leur. Parce que moi, je le sais, depuis les Jeux paralympiques, je sais à quoi ça ressemble. Alors, racontez-leur exactement. Encore là, on parle d'un ballon sonore.
Oui, c'est un ballon. Le ballon comme tel a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un moyen de réhabilitation pour les personnes qui sont devenues aveugles à cause de la guerre. C'était pour apprendre à discriminer les sons.
Oui, c'est
puis,
ça.
Puis au fur et à mesure, c'est devenu un sport. Mm. On roule le ballon un peu comme un lancer hockey.
Oui,
on
oui,
le roule
oui.
par terre et nous, on est comme les trois quilles à l'autre
oui.
bout. Puis on essaye de se coucher pour pas que le ballon entre dans le but parce que le but a 9 mètres de long.
Voilà,
et
c'est ça.
Nous sommes que trois pour couvrir
oui.
tout.
Ben, en fait, de large, quoi. Hein, c'est ça.
Oui, oui,
et vous n'êtes que trois pour couvrir. Donc, à la limite, quand il faut être grand pour jouer à ça, j'imagine.
Non,
sinon,
faut être vite. Pas pareil.
Ah, faut être vite. Non, parce que moi, je me disais, si vous êtes grand puis que vous vous mettez bout à bout, il y a peut-être des chances de faire barrage, quoi. Il faut être
oui,
vite.
Oui, mais encore ouais. une fois, ouais. le ballon, il est lancé très, très vite.
Oui.
Hein? Et les lancers les plus forts qu'on a pu
arrêter,
c'était
ouais.
70 km/h. Là.
Oh,
quand
boy!
Quand même que vous êtes bien couché,
oui, oui.
si vous êtes mal couché,
ça fait
le
mal.
Le ballon, il passe par-dessus vous quand même.
Ah, OK.
Parce que si votre jambe est un petit peu trop en arrière ou votre main est trop à plat par terre, si vous faites...
Oh là là!
Oui, oui, oui.
C'est un art, là.
Oui, oui, non. C'est pour ça que quand même qu'on a trois qui mesurent ses pieds, s'ils sont mal couchés par terre, ça passe, là.
Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Oui, fait que c'est pas tout d'être grand.
Non, c'est
faut
ça.
Il faut être bien positionné. Puis inquiétez-vous pas, ça fait mal, tu sais. Le football, ça fait mal aussi,
oui.
là. Mais ils sont équipés, les gars.
Ils
là.
Sont équipés, oui.
Fait qu'ils ont quand même des protèges genoux, des protèges coudes, des protèges
ouais,
hanches.
Oui.
Et le protège-bijoux aussi, évidemment.
Mmh. Que... J'imagine, ben oui, de toute
ouais.
façon.
Non, c'est ça. Bon. Mais on invite les gens qui ne
oui.
connaissent pas ça à venir.
À venir.
Parce que l'écouter sur une vidéo, sur YouTube, ça a l'air lent, ça a l'air hein. plate, ça a l'air...
Et c'est pas...
Ça n'a pas de l'air de ce que ça a de l'air pour le vrai.
Ah, c'est ça, hein?
Il faut vraiment venir
okay.
ressentir l'atmosphère.
Vous nous vendez bien ça.
Oui, ça va être au Centre Créatif Gadebois, au 5485 Chemin de la Côte-Saint-Paul. Vous pouvez prendre l'autobus à partir du métro Saint-Henri ou Lionel Gros.
C'est à la fin janvier, hein?
Oui, c'est du 27 janvier au 29.
Bon, ben savez-vous, ça nous laisse du temps. Il faudrait que vous reveniez nous en parler peut-être la même semaine. Hein? On va s'organiser pour que vous reveniez en ondes ici, pour qu'on le rappelle aux gens.
Oui, parce que c'est hein? gratuit. Vous venez voir.
C'est gratuit, d'accord.
C'est pas pareil. Venez écouter, là.
D'accord.
Vous allez voir comment le ballon va vite.
D'accord. Et dernière petite question, très rapidement, parce que l'heure tourne, Nathalie Chartrand. Pour les gens qui voudraient faire du ski de fond ou qui voudraient jouer au cécifoot, vraiment comme ça, là, de façon très, très ludique, ils vous rejoignent comment?
Ils peuvent nous appeler directement dans le 514-252-3178 au poste 3775. Vous pouvez consulter aussi notre site Internet.
Voilà, j'imagine que s'ils font ASAQ, A-S-A-Q, sur le
non,
web,
c'est,
non?
C'est mieux www.sportsaveugles.qc.ca.
Ah.
Il y a plusieurs sports, il y a plusieurs personnes aveugles.
Ah, ben c'est facile à retenir,
ouais,
ça.
Oui, c'est ça.
Sports aveugles, donc sport au pluriel, aveugle au pluriel, .qc.ca. Merci beaucoup, Nathalie Chartrand.
C'est moi qui vous remercie.
Et on se reparle à la fin du mois de janvier.
J'y compte.
Allez, au revoir et bonne journée.
Merci, au revoir.
Par actualité régionale encore, la protection des aînés, non, excusez-moi, nationale maintenant, décidément, c'est un festival aujourd'hui, ben oui, mais il y a des jours comme ça. Alors, par actualité nationale, la protection des aînés passe par l'Ombudsman et défenseur des enfants de la jeunesse. Nous nous sommes transportés au Nouveau-Brunswick dans les pages de l'Acadie Nouvelle où Mathieu Roy-Comeau écrit cet article-là qui nous dit que la ministre des aînés et des soins de longue durée Elisa Harris déposera un projet de loi mercredi à l'Assemblée législative pour confier aux défenseurs des enfants et de la jeunesse la responsabilité de protéger les aînés et les adultes vulnérables. Le poste occupé par Normand Bossé sera renommé pour mieux refléter ses nouvelles responsabilités. Cette tâche incombait jusqu'ici à l'ombudsman de la province, Charles Meuret. Mais la plupart des gens ne le savaient même pas, avance la ministre Harris lors d'une interview avec le journal. Je pense que ça va beaucoup aider les aînés d'avoir leur nom dans le titre. S'ils ont un problème ou une inquiétude, ils auront ce défenseur à portée de la main. À l'international, alors, M. Trump étant élu, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se passer pour le milieu du handicap aux États-Unis? Eh bien, pour l'instant, rien. Donald Trump, 45e président des États-Unis, a suscité, on le sait, la surprise générale en remportant le 8 novembre 2016 les élections. Mais vous savez qu'il ne rentrera en poste qu'au mois de janvier prochain. Mais savez-vous qu'aux États-Unis, une personne sur cinq est en situation de handicap? Si des mesures doivent être davantage développées pour améliorer leur accessibilité à l'emploi notamment, Donald Trump ne s'est presque jamais exprimé sur le sujet. Plutôt connu pour s'être moqué d'un journaliste handicapé et d'une jeune femme sourde lors d'une de ses émissions de télé-réalité, le mania de l'immobilier new-yorkais reste silencieux quant à la question de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. En 2016, lors des primaires, l'organisation apolitique Respectability avait invité tous les candidats à remplir un questionnaire sur les principales problématiques des personnes en situation de handicap. Les démocrates ont répondu de façon détaillée, sous la plume de Mme Clinton et Bernie Sanders. Parmi les républicains, Jeb Bush avait répondu, ainsi que Ben Carson, mais silence radio du côté de M. Trump. Il semble que pour le moment, celui-ci n'ait abordé le handicap qu'en évoquant les vétérans de guerre pour lesquels il promettait de développer un programme de prise en charge en cas de troubles mentaux ainsi qu'une réforme des grandes institutions de santé. Hillary Clinton présentait un plan autisme et handicap mental ainsi que des mesures de lutte contre le VIH. Donald Trump promet d'abroger dès son investiture la loi Obamacare, réforme instaurée par le président sortant pour garantir l'accès universel aux soins. Dans le cadre de cette nouvelle présidence, qui entrera officiellement en vigueur le 20 janvier prochain, les employés ne pourront pas non plus bénéficier d'une couverture sociale sur leur lieu de travail. On a besoin de bénévoles pour le téléradioton de La Ressource, écrit Adeline Mantic. La Ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles tiendra son 20e téléradioton le 22 janvier prochain. Elle a besoin de main-d'œuvre afin de mener à bien cet événement qui fêtera ses 20 ans en 2017. La Ressource a un grand besoin de bénévoles pour sa centrale téléphonique. Il est possible d'offrir quelques heures de son temps pour l'occasion en contactant le 418-722-7233. Je vous le redonne, 418-722-7233. Voilà, c'était les Paractualités en ce 8 décembre 2016. Merci d'avoir été là. Merci à toute mon équipe. C'était Clotilde Say qui vous souhaite bien une très belle fin de semaine. Je vous retrouve lundi prochain.